Alors Antonin, il paraît que tu as participé à presque toute cette équipée. Qu'est-ce que tu en as retenu ?
Ah, c'était une belle aventure humaine, oui, oui. La paysannerie en itinérance, voilà, c'était... Puis des rencontres, des accueils, parfois formidables. C'était, ouais, ouais. Puis bon, des paysages aussi très jolis, l'occasion de discuter aussi tranquillement, en marchant. Bon, j'ai grandi à la campagne, hein, mais... Oui, j'aime bien être en extérieur aussi beaucoup. Les moutons, il y avait un cheval aussi. C'est rigolo de les voir comme ça. On les voit toujours dans un pré comme ça, quand on se fait une petite randonnée, de manière épisodique. Alors que là, ils sont devant ou derrière, il faut leur ouvrir le passage. Trouver le bon chemin avant qu'ils arrivent, parce qu'après, ça met un petit moment de tension de faire un demi-tour. Des fois, on a l'impression de se perdre. Malgré tout, avec une carte, une boussole, tout ça... On est bon là, on peut pas se perdre, mais quand il manque un des éléments, on hésite, les gens qui arrivent, il faut se décider vite vite, on part à gauche, à droite, hop hop. Et bon, souvent ça passe bien, mais des fois, oh, mais ça, au bout de 200 mètres, hop hop, stop stop, demi-tour, on change tout, alors là, faut la petite manœuvre, on le fait passer dans le sous-bois, clac clac, on rattrape le chemin et puis c'est reparti. Il marche plus vite que je ne marcherais si j'étais seul ou avec d'autres gens. Il y a un rythme à tenir malgré tout. En fait, on les fait plutôt marcher à la fraîche. L'après-midi, voilà, on a du temps pour cuisiner, se reposer, faire la lessive parfois. Et puis à les soirées aussi. Même s'il fait nuit de bonne heure, là, vers 7-8 heures, des fois on arrive à faire un feu et ça parle, ça chante, ça joue de la guitare, de la musique, ça rit autour du feu jusqu'à 11 heures, minuit. Mais bon, il faut pas trop tarder puisqu'on se lève à 6h, 6h30, ça dépend des fois.
Vous faisiez combien de kilomètres par jour à peu près ?
Une quinzaine, 15-20 en fait, puisqu'il y a, ouais, c'est ça, 15-20. On a fait des pointes à presque 30. Les chemins sont parfois difficiles. Et quand c'est long, ben, on se retrouve à marcher sur le coup des midis solaires, là, vers 2h. Et là, il fait chaud et les brebis n'aiment pas, donc... C'est arrivé quelquefois qu'elle décrète la sieste, et là, ben, 2 heures de sieste.
Alors, quelques anecdotes.
Moi, j'ai bien aimé quand on est arrivé à Conches. En fait, c'est après Saint-Laurent-les-Bains. C'est un ancien village qui est quasiment tout en ruine, mais qui aujourd'hui, depuis peut-être quelques années, est occupé par un couple à l'année, du moins. Après, il y a des gens qui viennent les aider aussi l'été, puisqu'en fait, ils s'installent là-bas, ils reconstruisent. Donc ils sont coupés du monde parce qu'il n'y a pas de route. Un hameau pour l'instant qui revit au milieu de la nature. Et donc c'est dans la vallée de la Prome, je crois. Et c'est très très joli. Et c'est montagneux, enfin paysage montagneux, très Ardèche. Hein. Et avec une belle rivière, des bassines pour se baigner. Ça j'ai adoré. Plouf.
Alors comment tu t'es embringué dans cette histoire ? Est-ce que tu les connaissais ou c'est le blog qui t'a donné envie ?
En fait, je connaissais Mathieu, on est originaire de la même commune. Bon, on n'est pas tout à fait de la même génération, hein. Il y a quelques années qui se séparent, quoi. Il doit y avoir 7 années par là. Mais j'avais remarqué Mathieu, il vendait notamment il y a quelques années du fromage qu'il faisait dans les Pyrénées. Et puis après, voilà, quand me promenant dans ce coin-là, je le voyais dans les prés avec ses moutons. Ces moutons qui n'étaient pas comme les autres, et donc voilà, et puis on a un petit peu discuté. Un samedi matin sur le marché, Antonin, je vais emmener mes brebis dans la Drôme, si ça te dit de te joindre à nous, voilà, au moins pour quelques jours. Et puis, alors j'avais prévu d'autres choses, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, je me suis laissé tenter, et puis voilà. Je les ai suivis sur toute la longueur finalement, sauf les quelques week-ends là où je me suis carapaté, gentiment, mais voilà. Voilà comment je suis arrivé là-dessus, quoi, par connaissance. Il y avait quelqu'un, je crois que c'est Colline, voilà, qui avait des expériences de vie collective, et même avec Guénel. Donc il y avait eu un tour de table, j'allais dire, mais tout le monde s'est exprimé. Bon, j'étais pas là à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est où les choses se disent.
Si tu devais le refaire, tu le referais ?
Ah ben bien sûr, oui. Oui, bien sûr.
Merci Antonin.
Avec plaisir.
Déambulation.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdivois sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Je suis en ce moment à Boulk, au milieu d'un certain nombre de brebis. Je demanderai plus tard ce qu'est cette race, avec Gwenaël et Aurélien, des amis de berger qui ont fait une marche de 410 km, une opération qui s'appelait Brebis en marche. Ils sont partis le 11 septembre, ils sont arrivés aujourd'hui même. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
On n'est pas encore arrivé.
Vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé.
Demain,
vous
allez... demain. Demain, on va au lieu, aux Avandons, là où le troupeau va rester.
D'accord. Mais de quoi s'est-il agi alors ?
Bah, on a fait cette marche parce que Mathieu arrête son activité et a vendu son troupeau donc à Jean-Michel et Gaël qui s'installent en Drôme ici, donc aux Avandons, à côté de Boulk. Plutôt que de charger toutes les brebis dans un camion et de faire le trajet en 7 heures, on a décidé de prendre le temps et de partager cette aventure donc avec des gens et aussi de rencontrer des producteurs, des agriculteurs sur le chemin qui nous ont accueillis sur toutes les étapes.
Et l'idée, c'était aussi de proposer à d'autres de nous rejoindre sur cette aventure, quoi, que ce soit aussi l'occasion d'une aventure collective et d'être au jour le jour sur la route ensemble, quoi, et de vivre ces rencontres avec... des agriculteurs, soit qui sont éleveurs de brebis, soit qui sont maraîchers, qui font du miel, qui sont engagés contre le puçage. Donc que ce soit vraiment une ouverture et ouais, relier tous ces territoires-là, cette espèce de diagonale du vide, faire en sorte que de prendre le temps d'être avec le troupeau avant de le laisser ici, quoi.
Alors, brûle-pourpoint, au bout de 410 km de marche, comment on se sent ?
On se sent bien, on se sent bien, on se sent un peu fatigué, mais on se sent bien. Je pense que ça a été... très agréable et une bonne expérience pour tout le monde, notamment pour nous.
En tout cas, moi, ce qui me marque le plus là-dedans, c'est les rencontres qu'on fait, quoi. On voit qu'il y a plein de vieux dans les villages qui se disent « Ah, mais c'est génial, un groupe de jeunes qui marche avec un troupeau, on n'en voit plus beaucoup, tout ça. » Après, il y a les gens sur le groupe. On a accueilli des gens qui ont envie de prendre le temps de savoir ce qu'ils font après et qui sont venus marcher comme ça, un peu en nous rencontrant, soit sur notre blog, soit à Figeac, tout ça, et qui, voilà, qui ont l'occasion de vivre une marche avec un troupeau de brebis. Enfin, c'est pas la même chose que marcher juste entre humains, quoi. Donc c'est ces deux rencontres-là. Pour nous, c'est aussi vivre entre amis, quoi. Pas juste se côtoyer dans nos chez nous, mais partir à l'aventure et partir à la rencontre, essayer de vivre un quotidien ensemble dans un espèce de raid où il y a plein d'épreuves à traverser quelque part, quoi.
Est-ce que c'est une épreuve de marcher avec des moutons ? Ils sont têtus, ils veulent pas aller dans le bon sens ?
Ils sont pas têtus, mais on les a bien usés et fatigués. Parce qu'habituellement, une transhumance, ça dure pas aussi longtemps. C'est une dizaine de jours, grand maximum. Et là, 400 km, ça a été pour elles, je pense, assez raide. Au niveau des pattes, donc il y a eu beaucoup de brebis qui se sont mis à boiter. Parce qu'on a pris des chemins, on a pris de la route et il y a eu des endroits un peu difficiles, difficiles d'accès, on va dire. Après, je pense pas qu'elles se rendent compte vraiment de là où elles sont arrivées, mais elles l'ont bien vécu, du moins, quoi. Elles ont goûté des herbes différentes sur tout le trajet.
Bien qu'au Claps, quand on est passé au Claps, au saut de la Drôme, quoi, elles regardaient partout, quoi, enfin... Donc j'ai l'impression qu'à des moments, elles voient que le paysage, il change, enfin, elles regardent, quoi, enfin... Et c'était marrant à vivre, ce truc-là. Après, ce que, ouais, tout le soin aux brebis, ça, c'était un truc hallucinant, quoi. Au jour le jour, quelqu'un qui leur passe de l'argile, qui les soigne. Moi, j'ai vraiment découvert, tu vois, de l'intérieur, ce que c'est avoir un troupeau de brebis, quoi. C'est bah, les regarder vivre, prendre soin d'elles, quoi. Il y a tout ce côté-là où bah, tu n'es pas juste entre jeunes à faire la fête, même si on a pas mal fait la fête aussi et pas mal ri sur ce périple. Mais il y a aussi toute une responsabilité. À plein de moments, on a été sur des routes, on s'est retrouvé un peu agent de la circulation, à faire doubler les voitures, tout ça. Il y a une dangerosité, quelque part, à assumer ensemble. Par exemple, sur le passage du Rhône, quoi, on s'est vraiment demandé comment on fait ça pour qu'il n'y ait pas d'accident, tout ça. Volontairement, on n'a pas voulu demander d'autorisation parce que voilà, on n'avait pas envie que la préfecture nous donne une heure où passer, tout ça. Du coup, on est passé en pleine nuit sur le Rhône à 5h du mat avec les gilets, les frontales et deux voitures. Et finalement, c'est fou parce que ça s'est passé comme une lettre à la poste.
Impeccable.
Il n'y a pas eu le cas de figure de brebis qui soit tellement fatiguée ou qui est tellement mal au pied que vous soyez obligé de vous arrêter et de la battre même, de l'achever comme on achève bien les chevaux.
On a achevé une brebis mais pour la manger.
C'est vrai ?
Sur la route, ouais. On s'était prévu, on avait pris 4 agneaux déjà pour la fête aux Avandons chez Gaël et Jean-Michel, donc pour demain soir. Et on en avait prévu une aussi à manger sur le trajet, donc un des agneaux. On m'a amené une quinzaine de brebis il y a une semaine directement sur le lieu où elles vont être vendues parce que c'était les plus boiteuses et qu'elles avaient vraiment commencé à tirer la langue. Et pour éviter de fatiguer le troupeau, voilà, enfin, le but c'était quand même de les amener entières quoi, et en bonne santé. Donc il y a eu pas mal de soins quand même au niveau des pattes et voilà, tous les jours il a fallu regarder celles qui boitaient et les soigner pour qu'elles puissent continuer. Et aussi le côté un peu logistique, aussi humain, donc la popote tous les jours, faire à manger pour une vingtaine de personnes, ça demande aussi une sacrée organisation, une sacrée logistique, quoi. Donc on a une voiture balai avec une remorque qui a permis de transporter justement les boiteuses et en même temps toute une partie intendance pour faire à manger pour les marcheurs et pour nous. Et après les petits soucis qu'il y a eu, à part les boiteuses, ça a été on a eu des chevaux pendant la première semaine, on a été avec...
Ouais, jusqu'à 7 chevaux quoi.
Ouais, jusqu'à 7 chevaux et une calèche. Et sur la fin, là, donc il y a 4-5 jours, le cheval qui était avec nous sur tout le parcours, il s'est mis à boiter, donc on l'a mis en stand-by. Et, donc on l'a soigné, on l'a mis en stand-by et on l'a laissé dans un lieu chez qui on était accueillis, chez Sébastien
Pellurson.
Aussi, on a fait 2 jours de pause parce que les brebis étaient vraiment fatiguées, commençaient vraiment à avoir les pattes un peu usées. Donc on s'est dit, allez, on calme le jeu et... pour pouvoir finir vraiment le parcours à pied quoi. On avait la possibilité de pouvoir les transporter en remorque et de sauter des étapes pour éviter de les fatiguer plus. Donc on a pris vraiment les boiteuses qu'on a amenées direct, mais sinon le gros du troupeau a suivi sans souci et tout est bien.
Brebis en marche, vous l'avez dit vous-même, hein, c'est une sacrée organisation, une certaine intendance. Ça s'est préparé longtemps à l'avance ?
Non, ça s'est préparé 3 semaines à l'avance. En fait, c'est parti un peu d'un coup de tête avec Mathieu. Un soir, on s'est dit, ouais, bah, plutôt que les amener en camion, on aimerait bien essayer de faire une transhumance pour essayer un peu aussi de rappeler un peu les traditions comme ça se faisait à l'époque. Il n'y a plus beaucoup de transhumance, ou en tout cas, ça se fait de moins en moins. Donc, il n'y a pas beaucoup de bergers non plus au jour d'aujourd'hui. Moi, ouais, c'est un coup de tête, quoi. C'est un coup de tête. Et du coup, on s'est dit, plutôt que de le faire à 4, on avait envie de l'ouvrir aussi au monde extérieur. Donc, on a commencé un petit peu à médiatiser la chose pour, juste comme ça au départ. Et puis, en fait, la mayonnaise a bien pris. Avec l'aide de Daniel Mermet, on a laissé des messages en fait sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Daniel a diffusé les infos tout au long du parcours. Donc, ça a rameuté aussi pas mal de gens. Plus le blog qu'on a fait avant de partir qui a permis aussi de... Enfin, c'était un peu le seul lien qu'on avait avec la civilisation et qui permettait aux gens de nous rejoindre. Enfin voilà, il y avait tout le parcours qui était planifié avec les dates et les endroits là où on allait se poser. Et du coup, ça a permis à des gens de nous retrouver sur la route. Donc il y a des gens, il y a très peu de gens en fait qui sont là depuis le début. On doit être 7 à avoir vraiment fait la marche pendant un mois. Donc les 5 qui ont organisé, plus 2 marcheurs qui sont partis de Figeac avec nous.
Il y en a eu jusqu'à combien des marcheurs?
On a été...
Vous étiez là facilement une bonne vingtaine là, ouais. Aujourd'hui?
Aujourd'hui on est un peu plus d'une vingtaine, mais c'est arrivé il y a quelques jours. On était 60, une bonne soixantaine au départ, mais juste sur la première journée. On a été 27 pendant à peu près une semaine. Après, donc ça a diminué petit à petit. Plus on s'éloignait du lot, moins. Enfin voilà, les gens ne pouvaient pas forcément nous rejoindre. Et donc il y a forcément aussi des gens qui sont occupés, qui ont du travail, donc qui ne pouvaient pas forcément rester sur tout le parcours. Mais en moyenne, on a été, une quinzaine. On n'a jamais été en dessous de 12 pendant un mois, quoi.
Alors pour en revenir à l'intendance. Il y avait un budget pour comment vous êtes assumé, vous vendiez des moutons au fur et à mesure.
On n'avait aucun budget à part notre argent de poche à nous et une cagnotte. Donc on fonctionnait avec une cagnotte pour les premières nécessités, on va dire. Et après on a fait énormément de récup de légumes, de pain, de fromage à glaner sur les marchés. On était en relation avec les Biocop un peu sur tout le parcours qui nous ont beaucoup soutenus et apporté. Légumes, céréales, tout ça. Des récups de maraîchers, les gens chez qui on était accueillis, certains producteurs qui faisaient du fromage ou du miel ou du maraîchage qui nous ont aussi soutenus en nous donnant des légumes ou voilà, du fromage, du pain, tout ça. Il y a eu une journée où on a fait. Donc on était accueillis chez un monsieur apiculteur qui faisait de la traction animale, donc on a aidé à ramasser des patates en traction animale avec des mulets. Ou pareil, là il nous a donné des patates pour 15 jours. Quoi. En fait ça a fonctionné avec beaucoup de dons extérieurs et après une petite cagnotte juste pour le petit plus, le petit bout de chocolat qui fait du bien et qui réconforte un peu tout le monde. C'était au bon vouloir de tout le monde. Quoi.
Qu'est-ce que c'est comme type de bête? Parce qu'elles sont belles,
c'est des manèches tête noire. C'est des brebis qui viennent des
Pyrénées Atlantiques, c'est des brebis basques. Donc c'est des brebis laitières qui produisent pas beaucoup de lait, mais qui ont un lait très riche. Juste pour fabriquer du fromage, on va dire, genre osso irati, donc un peu fromage basque, assez riche et bon en goût.
Ouais, mais ici c'est le picodon, hein. Vous n'allez pas faire du osso irati dans la Drôme. Est-ce qu'elles vont s'adapter d'ailleurs?
Oh oui, je pense qu'elles vont s'adapter parce qu'elles ont vu du paysage et ça fait 7 ans que Mathieu les a et elles ont déjà vu un peu de pays, elles ont goûté des herbes différentes et je pense qu'elles vont s'adapter.
Je pense qu'elles seront heureuses même d'être à la montagne, quoi, bien, parce que c'est moins vallonné chez nous. Là. Voilà, elles retrouvent un truc qui est propre à leur race. Quoi. C'est clair que là, elles sont agiles. Quoi. Les gens qui ont des brebis d'ici nous disaient on ne sait pas si vos brebis elles vont passer sur tel sentier. Et puis là, avec ces brebis-là, elles passaient, elles faisaient des sauts. Enfin voilà, elles sont agiles et ouais.
Et elles sont entre de bonnes mains. Ouais. Justement, Mathieu a mis du temps à trouver les personnes adaptées à son esprit et à sa façon de travailler. Donc c'est pour ça que Gaël et Jean-Michel ont racheté ce troupeau-là. Et eux, ils ont un peu le même esprit que Mathieu. Donc au niveau de la fabrication et de la traite, donc Mathieu il trayait en libre,
à la main,
et il fabriquait donc avec les techniques ancestrales du Pays Basque. Et Gaël et Jean-Michel sont partis un peu dans cette optique-là, donc c'est sûr que ça sera pas le même fromage parce que c'est pas la même herbe, donc ça aura pas le même goût, mais en tout cas au niveau de la méthode de travail, ça sera similaire à ce que Mathieu faisait, et c'est pour ça qu'il les a vendus donc à ces jeunes qui s'installent, ce couple. Eux, dans leur tête, ça sera leur troupeau le jour où ils vont commencer à faire leur premier agneau et où ils vont commencer à traire. Quoi.
Il y en a combien ?
Il y en a 90. Ouais, 90 en tout. Il y a 3 béliers, il y a une quinzaine d'agnels, donc des jeunes de l'année. Et on va dire ouais, 70 ou 75 mères.
Gwenaël Aurélien, moi je vous introduis en tant qu'ami du berger. Est-ce que cette expérience, ça vous a donné envie de persévérer dans ce genre de métier ou pas? Ou peut-être vous êtes déjà dans la partie?
Non, on n'est pas du tout du métier à la base. Enfin, moi, j'étais fils d'agriculteur, mes parents avaient des chèvres aussi fabriquées, donc j'étais un peu élevé dans ce milieu-là, mais voilà, je suis pas du tout paysan et j'ai pas du tout envie de travailler avec des bêtes, quoi. Enfin, en tout cas pas aujourd'hui.
Moi, j'ai vraiment découvert la relation à l'animal, quoi. À des moments, je me pose dans le troupeau et je vois que... Chaque brebis est différente, quoi. Et ça c'est quelque chose que j'imaginais pas dans le métier d'éleveur. Moi, avant, je voyais un troupeau et je voyais, elles ont toutes la tête noire. c'est comme quand tu découvres une musique vraiment de l'intérieur, tu vois toutes les subtilités dans les morceaux. Bah là, je me dis, c'est pareil, chacune a sa spécificité, chacune est différente.
Son petit caractère.
Et donc, ouais, moi j'ai vraiment découvert ça, ouais, la richesse quelque part du métier de l'éleveur, quoi. Après, mais, moi, même si je vais pas faire ça, mais c'est une expérience qui est super riche, quoi.
Vous les reconnaissiez à la fin?
C'est certain.
Ouais, après il y en a, y a un peu les mascottes du troupeau. Il y en a certaines, c'est voilà, il y a Tétoun, il y a Momoche, il y a Frisette. C'est un peu les voilà, les certaines qui sont plus facilement reconnaissables que d'autres et qui ont aussi leur petit caractère ou leur petite particularité. Tétoun, voilà. Les Tétoun, c'est les agneaux qui ont été élevés au biberon, dont les mères ont un peu rejeté leurs enfants. Et c'est des brebis chiens, quoi. C'est des brebis, elles sont hyper sociables, elles nous suivent comme des petits toutous. Et voilà, donc voilà, les marcheurs ont pu. Enfin, si, on s'attache. On s'attache.
Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui vient de s'attabler avec nous.
Je suis Gaëlle Couton, la repreneuse de ce troupeau que nous amène Mathieu, Aurélien, Guénaël, entre autres. Et donc là, aujourd'hui, ils sont arrivés à Boulk après un mois de marche. Donc demain, les brebis vont arriver à la bergerie, 2,5 km au-dessus, aux Avandons.
Est-ce que du côté de Figeac, ils ont un sol calcaire? Parce que je ne sais pas si c'est très important, mais en tout cas, ce ne sera pas la même herbe. Vont-elles s'y habituer?
Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Oui, c'est assez calcaire en fait, hein, le Lot.
C'est même beaucoup calcaire.
Oui, hein, voilà, avec les pays de la Gaillarde,
c'est beaucoup de
causses, voilà.
C'est assez pauvre, ouais. en herbe, en végétation. Donc je pense que là, elles seront mieux que...
Ouais. Ouais, puis là, ils ont eu le temps de s'acclimater, hein, en venant à pied, et pas en camion.
Alors, je suppose que si tu te lances, c'est que tu as une certaine expérience. Ça fait longtemps que tu es dans la partie, dans le métier?
Oui et non, c'est un projet que j'ai depuis presque 5 ans maintenant. J'ai jamais eu de troupeau à moi, j'ai toujours bossé dans différentes petites fermes, avec vraiment cette optique-là d'avoir un troupeau laitier à traire manuellement, voilà, pour faire du fromage et de la vente en direct. La grande aventure commence aujourd'hui, quoi. Enfin non, demain.
Aurélien m'a dit que tu comptais traire à la main, t'as pas peur de la tendinite?
On verra.
Parce que j'en ai connu des comme ça, hein, qui commençaient sans treilleuse et puis qui étaient aux corticoïdes.
Ouais.
Enfin bon, ça correspond à un engagement?
Oui,
tu es contre la
souhait.
Technologie?
Non, je suis pas contre la technologie, j'aime bien le confort en fait. Et le fait de pas avoir de salle de traite, de bruit de machine, de treilleuse, etc. D'être vraiment au sein, tranquillement, quoi, au sein du troupeau. À traire, ça me permet d'être plus au calme, pour les brebis aussi je pense, c'est moins speed. Et puis ça me permet de vraiment bien observer en fait en même temps les animaux. Et vraiment une ambiance calme, quoi, c'est ça que j'aime.
Ça fait partie du périple entre Figeac et ici?
Et non, malheureusement non. Donc trop de choses à préparer là-haut.
T'as pas les équipements originellement, ils étaient pas là, quoi, je veux dire?
Non, c'est pas fini, non. En fait, je reprends une bergerie qui était un troupeau à moutons viande. Et du coup, il y a des aménagements à faire pour la fromagerie, voilà, le quai de traite qu'on va bricoler en bois. Donc tout ça, ça va être auto-construit. Il reste encore un peu de l'ancien troupeau viande qu'on doit finir d'enlever pour finir nettoyer. Un peu la course. Et voilà mon mari.
Jean-Michel, il y a Jean-Michel qui arrive, éventuellement je me pousse. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Tu seras auto-constructeur pour la fromagerie et le quai de traite.
Et est-ce que vous comptez faire du fromage basque ou du picodon alors?
Du fromage drômois. Le projet, ce serait de faire un bleu, en fait, un bleu de brebis. Ah. Voilà, on appelle ça pâte persillée. Bon, il existe une marque très connue qui est Roquefort. C'est une pâte persillée, donc je voudrais faire un bleu de brebis, entre autres.
Bah, dans le Vercors, ils font le bleu de Sassenage, donc, mais c'est avec
c'est de la vache. Ouais, c'est voilà. Ça. Et aussi, certainement, de la tome. Pâte pressée, mi-cuite ou pâte persillée. On va essayer d'innover un petit peu, voilà.
Alors comment vous avez été mis en contact avec ce troupeau du Lot alors?
Via la Confédération Paysanne en fait, via l'ADR qui est l'association pour le
développement de l'emploi et de l'aménagement rural.
Voilà. Où Mathieu avait mis une annonce. Mon projet c'est vraiment travailler avec une race rustique pour mettre, travailler aussi dans l'espace naturel. Pour
valoriser
le
milieu en fait.
Et donc, j'ai passé 6 mois au Pays Basque pour me former, où j'ai rencontré les manèches tête noire, manèches tête rousse, les basco-bernaises aussi, toutes les races vraiment pyrénéennes, qui sont vraiment les races rustiques en brebis laitière. Ça nous a vraiment beaucoup plu. Et quand on a vu cette annonce, du coup, on a contacté Mathieu, parce qu'on cherchait un troupeau déjà constitué pour pas piocher dans plusieurs élevages.
Et faire
un troupeau, beaucoup de soucis de maladie quand on mélange des animaux qui viennent de troupeaux différents. Donc c'était l'opportunité, et en plus c'était des manèges tête noire, donc c'était un peu royal.
Et 90, c'est un cheptel suffisant pour pas qu'il y ait consanguinité au bout du compte?
De toute façon, dans n'importe quel troupeau laitier, on ramène à peu près tous les deux ans un nouveau bélier de la génétique neuve pour maintenir cette diversité. Ouais. On peut pas tourner en vase clos. Donc 90, c'est plus après la taille du troupeau, c'est plutôt la limite de l'éleveur qui la définit, quoi. La charge de travail et la production qu'il souhaite avoir.
Je ne sais pas si vous êtes depuis longtemps dans la région.
On est arrivé courant juillet.
N'importe quel étranger passant le tunnel du col de Bouc, dans lequel il y a un grand panneau non au loup, oui. Est mis au courant assez rapidement, s'il ne le sait pas, que le loup est là. Ça ne vous fait pas peur?
C'est un animal qui fait appartient à la grande faune sauvage, comme l'homme, sauf que l'homme est un peu moins sauvage que le loup, et encore, ça dépend de certains. Donc il va falloir faire avec. La plupart des éleveurs ici utilisent des patous. Nous, sur des conseils d'autres éleveurs qui ont essayé de patous et qui sont maintenant passés au berger d'Anatolie. D'origine turque. On a investi dans deux bergers d'Anatolie. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, de toute façon, contrairement aux élevages de brebis viande, qui peuvent rester la nuit dehors, nous, tous les soirs, les brebis rentrent pour la traite. Donc déjà, la menace, elle ne sera que diurne et pas nocturne. Donc c'est déjà un peu plus sûr.
Après, juste, voilà, faut juste adapter sa manière de faire pour les conditions avec le loup, quoi, hein, c'est sûr.
C'est un autre type d'usage et de consommation du paysage et du territoire local. Voilà.
Donc du coup, on pourra en reparler dans un an.
Voilà. C'est vrai pour le moment, on vient sans idée préconçue, ni pour ni contre le loup.
Ouais. Après, nous sommes au courant, nous organisons pour faire en sorte que le troupeau soit le mieux gardé possible et puis que les conditions de travail restent agréables pour tout le monde. Quoi.
Petite statistique que j'ai lue avant-hier, c'est que 80% des Français sont contre le fait de pouvoir tuer les loups.
80% des Français vivent en ville.
Oui. Et puis 80% ne voient pas leurs moutons égorgés, etc.
Voilà. Voilà. Je pense que nous, c'est pareil. Avant, par nos activités d'ingénieur en environnement, on était forcément contre l'abattage du loup. On va voir maintenant dans 3 ans si notre comportement évolue ou pas. On va être un peu devant notre miroir aussi pendant ces 3 ans par rapport à ça. On verra si on reste intègre à nos idées ou si une menace extérieure nous fait changer d'avis. Quoi. Donc ça va être une bonne leçon de vie.
Je vois Mathieu qui est l'ancien berger, qui a fait aussi la marche, si je ne m'abuse.
Tout entière.
Un peu.
Mathieu, tu étais berger à plein temps avec ce troupeau?
Ouais, c'était mon troupeau, ouais. Je le gardais tous les jours, je faisais la traite à la main. C'est pour ça que j'ai voulu vendre mon troupeau à des gens qui voulaient continuer un peu dans la même vision, la même optique que moi, la traite à la main, fabriquer le fromage différemment qu'avec des ferments lactiques et tout ça. Quoi. Et du coup, j'ai réussi à trouver Gaël et Jean-Michel. Et dès que je les ai vus, je crois que ça a été le coup de foudre. Voilà, quoi. Et je voulais surtout aussi vendre mon troupeau, mon troupeau entier. Quoi. Je ne voulais pas le diviser en plusieurs, l'envoyer chez plusieurs éleveurs divisés. Je voulais vraiment qu'il reste en troupe comme il est, parce qu'il a quand même... Il a quand même une âme, il a quand même une vie de troupeau, et du coup, je voulais que ça reste comme ça.
Explicite, parce que je suis un pauvre béotien. Un troupeau aurait-il une âme?
Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à la vôtre?
Oui, je pense que, oui, de vivre ensemble, elles ont leur manière de faire, chacune a une manière de faire différente, et du coup, elles ont besoin d'être ensemble, je pense, pour continuer à vivre en troupeau. Quoi. Si tu sépares un troupeau en deux, je pense qu'il y en a certaines qui le vivraient mal de plus se retrouver avec leur copine, entre guillemets. Quoi. Voilà.
Il y a une conscience grégaire, quoi. C'est vraiment une conscience de groupe. Pas tout à fait la conscience individualisée de l'homme, mais il y a une bonne conscience du groupe.
Alors qu'est-ce qui t'a décidé, si c'est pas trop indiscret, à te séparer de ton troupeau? T'en as marre de la carrière de berger?
Non, pas forcément, parce que j'ai dans l'idée de vouloir remonter à la montagne, et du coup, d'avoir mon troupeau dans le Lot, ça me freinait un peu pour pouvoir remonter en montagne l'été, parce qu'il fallait que je trouve des gens pour s'occuper du troupeau, ou que moi je reste dans le Lot pour m'occuper du troupeau. Du coup, ça me freinait un petit peu pour remonter à la montagne. Et après, il y a plein de petites raisons qui ont fait que voilà, je voulais me séparer de mon troupeau, mais je voulais essayer de faire ça bien aussi, de léguer comme il faut.
Et alors justement, le fait de te séparer de tes tounes et des autres, ça va être un problème ou pas?
Ah, ça va être un peu dur, ouais. Ouais. Je pense que je vais lâcher quelques petites larmes, ouais, ça c'est sûr.
Mais pour repartir sur d'autres projets, donc.
Voilà, pour repartir sur d'autres projets, ouais.
D'un des sujets qui fâchent avec les loups, on pourrait parler d'un autre sujet qui fâche, à savoir le puçage des moutons. Sont-ils pucés avec des RFID?
Oui, ben là, ils sont pucés, ouais, une grosse partie en tout cas, parce que c'est obligatoire. Et pour transhumer comme ça à travers la France, je ne voulais pas risquer de me faire euthanasier le troupeau, parce que maintenant, il y a plein de troupeaux, on ne le sait pas trop, mais qui se font euthanasier parce que juste, ils ne sont pas bouclés comme il faut.
C'était plus par sécurité pour le troupeau, étant donné qu'on n'avait pas spécialement des autorisations, donc arrêté préfectoral ou... pour traverser les départements et les routes qu'on a empruntées. On a décidé de le faire juste avant de partir pour limiter les dégâts et qu'on puisse arriver tous entiers, et les brebis aussi entières. Et...
Après, c'est vrai qu'on a fait, une fête pour le départ de la transhumance en soutien à un collectif dans le Tarn qui s'appelle Faut pas pucer. C'est vrai que c'est un sujet qui nous sensibilise, qui nous pose énormément de questions, quoi. On a diffusé Mouton 2.0, la puce à l'oreille, superbement bien fait, avec des témoignages d'éleveurs qui sont vraiment touchants, quoi. Mais rien que dans le débat, quand on a projeté Mouton, il y a des éleveurs qui parlaient de 3 troupeaux qu'ils avaient vus euthanasier. Donc c'est vrai que c'est quand même un truc qui est réel. Après, moi, toute la question que je me pose, c'est comment il y a des collectifs de soutien qui se forment autour d'éleveurs qui décident de ne pas pucer, quoi. Et là, nous, notre idée, notamment, c'était d'être autour de Mathieu... Et moi, je me dis que voilà, c'est important en tout cas de ne pas laisser les gens seuls face à ça.
Quelles conséquences ça a, alors, un mouton pucé?
La traçabilité.
Et le mal de tête, non?
Ouais, le mal de tête, je pense que ça leur...
Ça leur donne mal à la tête.
Ouais, je pense que ça leur crée des ondes intérieures. Et je pense que sur les générations d'après, je pense qu'il peut y avoir de la dégénérescence avec les agneaux. Et...
Mm. Ça, la traçabilité, c'est pas un avantage pour toi, c'est un avantage pour
le consommateur.
Non, est-ce que c'est vraiment un avantage pour le consommateur?
Non, c'est pour ceux qui ont des troupeaux très très grands, c'est le seul avantage
ouais,
que j'y vois.
C'est peut-être pas un avantage pour le consommateur, enfin, en tout cas c'est l'État...
À mon avis, c'est un avantage
c'est un
pour celui qui vend les puces.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, après, continue.
Donc c'est un avantage pour celui qui vend les puces, parce que l'éleveur doit acheter les puces. Combien tu connais exactement le prix des puces?
Eh bien, jusqu'à présent, c'était 50 centimes il y a 2 ans. Là, ça vient de passer à 1 euro. Ouais. C'est resubventionné à 25%, je crois. Mmh. Et ils parlent de supprimer cette subvention. Du coup, ça va passer à 1 euro et quelques. Ouais. Voilà. Alors que quand ils ont mis ça en place, c'était subventionné à 100%. Et les éleveurs n'avaient rien à payer. Quoi. Les deux premières années, rien à payer. Et petit à petit, ils ont enlevé les subventions.
Ouais. Donc, comme
l'habitude de faire l'Europe depuis le début de toutes ces subventions, on commence à donner des subventions pour obliger les agriculteurs à faire des choses et après on leur supprime ça petit à petit et on les laisse dans leur merde. Quoi.
Donc ouais. Le citoyen, à travers ses impôts, paie au travers des subventions les puces. Et après, rien ne dit qu'en tant que consommateur, il ait une viande de bonne qualité parce que c'est épucé. Quand on voit l'affaire du cheval dans les plats cuisinés de cet été, même si les chevaux ou les bovins avaient été pucés, ça n'empêche pas le consommateur de s'être fait tromper sur la nourriture qu'il a dans son assiette. À ce moment-là, ça va vraiment de l'éleveur jusqu'à l'assiette. Et à l'assiette, on enlève le plastique sur l'assiette, on retire la puce et on mange. Bon, ça devient complètement anachronique, utopique, déshumanisé. On a perdu un peu du sens dans ce puçage.
Ouais, je pense que c'est plutôt fait pour les très grands troupeaux où il y a peu d'identification des animaux, d'identification personnelle, quoi. Un suivi pas très rapproché. Sur des troupeaux à taille humaine, comme il y a beaucoup en France, en majorité quand même, ben là on connaît nos animaux, nous les suivons tous les jours et l'identification, la traçabilité, elle est existante. Quoi. Elle est très bien pratiquée, il n'y a pas besoin de ça. Ils veulent nous faire appliquer ça effectivement à des échelles qui sont démesurées par rapport aux moyens à suivre.
Mathieu, tu es berger depuis combien de temps et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce métier? Qu'est-ce que tu y trouves?
Ben moi, ça fait une dizaine d'années que je suis berger. Ouais, j'y trouve de la liberté, ça c'est sûr. Même beaucoup de liberté, même si c'est un métier très compliqué parce que tu es quand même souvent isolé tout seul à la montagne. C'est des moments de solitude, des grands moments de solitude. Quand tu es en contact avec les brebis, que tu passes tes journées avec les brebis dans la montagne, je pense qu'on ne peut pas rêver mieux. Quoi.
C'est pas un métier où on a le temps de contempler si
non,
je m'abuse.
Non, il faut quand même. Surtout quand tu fais du fromage, c'est des bonnes grosses journées qui commencent très tôt le matin avec la première traite et après la fabrication et après refaire la traite du soir. Et entre temps, arriver à garder les brebis, arriver à se ravitailler pour pouvoir se nourrir à la montagne et tout ça, c'est quand même des grosses journées. Quoi. C'est pas de la promenade.
Ben, c'est le seul métier qui permet de faire la sieste aussi. Hein.
Ouais.
Ce troupeau, vous le réceptionnez demain si je ne m'abuse.
Oui.
Quand pensez-vous que nous puissions, nous, en tant que consommateurs, bénéficier de vos productions laitières?
Moi, j'ai mis le bélier juste avant de partir. Du coup, la gestation, c'est 5 mois. Les petits vont naître à partir de février et après, il va falloir la traite à partir de mars-avril. À partir de mars-avril, du coup, le temps d'affiner les premiers fromages, pas avant la fin du printemps, au mois de
juin.
Début juin, les premiers.
Les premières semaines.
Et il faudrait que j'ai une fromagerie pour pouvoir légalement vendre.
Et aux normes européennes, bien sûr.
Donc voilà, donc ça a été un peu la course. Enfin, de toute façon, c'était déjà la course. Mais...
Et vous partez avec des biscuits quand même?
Un petit peu, oui. Nous vivions en Normandie, nous avons vendu une maison pour faire ce projet-là.
Ça ne nous est pas resté tout de la maison. Parce que la banque, on avait une très grosse partie.
On n'a pas récupéré grand-chose, mais voilà, on a un petit peu. Et du coup, on fait beaucoup par autoconstruction et petits moyens. L'idée, c'est de faire un élevage simple aussi, quoi. Une traite à la main, ça limite des investissements. Selon les types de fromage, c'est aussi... Voilà, des investissements plus légers, voilà. On essaie de faire un investissement qui soit acceptable pour nous, quoi, pour le coût de vie qu'on souhaite avoir, le train de vie qu'on souhaite avoir.
Et vous êtes installé où à Boulc?
Dans le hameau des Avendons. On reprend, pour ceux qui connaissent, on reprend la bergerie de Michel Chex.
Michel Chex, oui.
Ah ben ça dépend. Il y en a qui prononcent le X et mais pas tous.
À 2,5 km, à combien ça fait d'altitude en plus?
On est à moins de 1100 mètres, on est à 2 km au-dessus de Boulc.
À peu près 39 hectares de pâture pour ces belles dames. Ça devrait largement le faire au niveau autonomie alimentaire. On fera un peu de céréales, plus après pâture et puis fauche pour faire du foin pour l'hiver.
On peut faire beaucoup de fromage?
Ça dépend, hein, ça fait un peu plus de 6000...
Une tonne et demie, je pense,
ouais.
1500 kilos.
Tout le monde est un peu fatigué, les animaux aussi, donc à voir un peu comment ça fonctionne au niveau des saillies, au niveau de la reproduction. Donc je ne peux pas dire l'année prochaine quelle quantité de lait il y aura. Mais ça fera pour beaucoup de fromage, ouais, ça fera beaucoup de fromage.
Donc vous comptez les ventes sur le marché et puis dans les petits commerciaux, quoi.
Voilà, ouais. Même dans les points de vente collectifs, en fait, les magasins de producteurs, où on se relaie pour faire des permanences et on vend les produits de nos collègues en même temps que les nôtres, voilà.
Ici, présentement, c'est-à-dire
Non, c'est de l'autre côté, c'est aux Hautes-Alpes, il faut passer le col de Grimone.
Ah, d'accord.
À Saint-Julien-en-Beauchesne, peut-être Vennes, et sinon, il y a le marché de Châtillon, quoi.
Et pas le marché d'Y?
Si, peut-être,
on verra. Il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui vendent leur fromage là-bas.
Oui, mais si donc,
c'est du bleu, voilà.
Ah, voilà, on va voir.
Et comme j'en ai jamais fait, c'est le seul fromage que j'ai pas fait en brebis, donc il faut que j'y arrive, qu'il soit bon.
Aurélien, Gwenaël, Jean-Michel, Gaël et Mathieu, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Erdiwa.
Merci.
Okay, merci beaucoup.
Et à demain
sur le chemin et bon courage pour les autres.
Sur ce chemin en question, comment vous dormiez le soir? Dans des chemins creux ou dans des bas-côtés?
Un petit peu
des deux.
Des deux.
Après, on avait défini donc un parcours avec des étapes où on était accueillis, donc, comme on disait tout à l'heure, chez des éleveurs, chez des producteurs. Donc souvent on avait un pré à disposition donc pour les bêtes avec un point d'eau pour que nous on puisse faire la vaisselle et que les bêtes puissent s'abreuver. Et après niveau couchage, c'est essentiellement en tente dans les moments où il faisait plutôt beau, parce qu'on a passé quand même quelques orages et quelques nuits fraîches et humides où on a squatté, on va dire, des granges donc chez les éleveurs, où on dormait tous dans la paille, dans le foin, pour se tenir chaud et éviter l'humidité. Et après bâche, on avait quand même un peu une petite logistique, des bâches tendues pour éviter d'être trop mouillées.
C'est le départ apparemment.
Ouais, change de pâture.
Change de champ pour la nuit.
Pour la nuit.
Et après, question anecdote aussi, la petite arrivée sur le col de l'Escrinet où là on a grande vue sur les Cévennes et on tourne la tête et notre première vision des Alpes à 9h le matin avec une jolie mer de nuages, c'était assez magnifique, c'était des bons moments d'émotion, en tout cas pour moi et pour d'autres je pense aussi.
Tout le monde.
Et voilà, et puis la traversée du Rhône à Le Pouzin à 5h du matin tout en chantant. Et, ça, c'était assez mythique aussi. Mmh.
Et en termes de rencontres, moi, par exemple, une rencontre qui m'a marqué, c'est quand on est allé chez des gens qui avaient acheté des brebis à Mathieu, qui reconstruisent un hameau en ruine dans les gorges de l'Ardèche. Et eux, par exemple, voilà, ils font revivre un hameau où il y avait 50 personnes. Bon, là, ils y sont à deux. Et c'est une demi-heure d'accès par un petit sentier à pied. Et ils portent les matériaux de construction par une tyrolienne de 300 mètres, quoi. Et donc c'est un très bel endroit et donc on a retrouvé des cousines brebis Manèche qui étaient à Mathieu avant, quoi. Et donc là c'était une rencontre très très forte, quoi, où on a fait un feu au bord de l'eau et voilà, dans cet endroit magique, quoi. Être un peu hors du monde comme ça tous ensemble, ça c'était quand même un moment incroyable.
Beaucoup de moments de plaisir, et ce qui m'a un peu frustré aussi c'est la rapidité dans laquelle on a fait cette transhumance. Du coup les éleveurs, on arrivait chez eux dans l'après-midi et le lendemain matin à 7h on était reparti. Du coup il y a eu des échanges mais ça a tout le temps été du coup juste assez bref et je pense qu'on aurait pu échanger beaucoup beaucoup plus avec certains éleveurs mais on est toujours à temps de les revoir bientôt, quoi.
Parce que si j'ai bien compris, cette transhumance n'est pas habituelle, c'est pas une transhumance qui se faisait dans le passé, quoi.
Non, c'est vraiment pas du tout. C'était juste à part, une transmission de troupeaux à d'autres gens. Et
on aurait aimé, en fait, enfin c'était pas du tout prévu, on avait un délai un peu court, mais on aurait aimé passer plus de temps chez les gens qui nous accueillaient pour filer la main, à retaper des maisons, parce qu'on était quand même en moyenne une bonne quinzaine, donc des petits bras, des petites mains. Avec des gens qui nous ont accueillis vraiment les bras grands ouverts, qui nous ont proposé de faire des machines à laver, ce qui est pas grand chose, mais qui a été énorme pour nous, parce que tous ceux qui sont restés un mois, on avait quand même nos fringues qui étaient mouillées, on est un peu tous pleins de boue, on s'est lavé dans des rivières, on s'est lavé dans des lavoirs, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de banc, on n'avait pas de chaise, on n'avait pas de table, c'était du camping, mais C'était bien. Et du coup, donc, ces personnes qui nous ont accueillis, qui nous ont proposé une machine à laver ou qui nous ont fait un gâteau à notre arrivée, c'était juste magique pour nous, quoi. Et pour les autres, d'ailleurs.
Alors, je suppose que dans cette expérience près de la nature et, je suppose, authentique, l'économie numérique ne vous a pas manqué. Ceci dit, vous avez tenu un blog.
Ouais, on était quand même un petit peu connectés à des moments, donc chez les gens qui nous accueillaient ou voilà, quand on trouvait un bar sur la route avec une connexion internet, ce qui était très rare, mais on a quand même pu entretenir et
enrichir
le blog tout au long du parcours, donc voilà, avec des commentaires, des photos, un peu le ressenti des gens, des petits appels aux mamans sur ceux qui ont marché avec nous, tout va bien, voilà, enfin...
Et donc l'adresse c'est desbrebisenmarche.wordpress.com. Voilà, si vous voulez voir un peu des photos et le parcours de cette marche, quoi.
Bon, je vous dis pas au revoir parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure.
Ouais.